France Culture.
Le cœur a ses raisons que la raison ignore ou pas, le couple est devenu un véritable objet d'étude économique au point de douter de l'irrationalité supposée du sentiment amoureux, car notre quête de l'âme sœur pourrait bien être en réalité celle d'un statut socio-économique qui correspond au nôtre, bien moins romantique certes, mais le fait que dans 4 couples sur 10, les deux conjoints appartiennent au même groupe social ne dit pas tellement autre chose. L'homogamie n'est pas un phénomène nouveau, bien au contraire, elle est même organisée. Depuis la fin de la société d'ordre à la fin du XVIIIe siècle, offres et demandes matrimoniales se rencontrent sur des marchés spécifiquement créés pour permettre le meilleur appariement possible, le fameux optimum ou point d'équilibre si cher aux économistes. Alors quels sont les critères des individus qui se mettent en couple ou se marient et quel est le poids des arguments économiques conscientisés ou non dans cette décision? Le triomphe du mariage d'amour renvoie-t-il pour autant les arguments de raison et de rationalité aux oubliettes? En somme, l'homo economicus amoureux reste-t-il avant tout un homo economicus? Toutes ces questions sont au cœur de cette émission programmée et préparée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en ondes par Jordan Fuentes. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui en studio. Marion Gousset, vous êtes économiste, professeure à l'ENSAI, l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Vous êtes également chercheuse au CREST, le Centre pour la recherche en économie et statistique. Bonjour.
Bonjour.
Cherlise Gaillard, vous êtes historienne chargée de recherche à l'INED. Votre ouvrage « Pas sérieux, s'abstenir, histoire du marché de la rencontre 19e-20e siècle » a paru récemment aux éditions CNRS. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors Marion Gousset, nous allons tout au long de cette émission nous intéresser aux déterminants du choix du conjoint, hier et aujourd'hui, sur ce vaste marché qu'est le mariage. Mais avant cela, il faut se poser une question un peu comme une évidence finalement. Pourquoi sociologues, démographes, économistes se sont penchés sur cette entité qu'est le mariage et qu'est le couple de fait? Est-ce parce que le couple joue un rôle fondamental dans la diffusion des inégalités qu'il est l'objet de cette attention particulière?
Oui. Effectivement, le couple, la formation des familles a des implications économiques très fortes sur les inégalités dans la société, sur leur transmission, les transmissions intergénérationnelles. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet en sciences humaines très important. Pour les économistes, c'est un sujet qui date de l'économiste Gary Becker, hein, qui avait pour intuition que la rationalité économique pouvait s'appliquer à beaucoup de choix, à beaucoup de décisions individuelles, et en particulier dans la formation des familles. Il avait en tête que, enfin, pour plusieurs raisons, en fait, il trouvait que le choix ou la formation des familles était une décision économique et rationnelle. D'une part, parce que c'est un choix qui a des implications de long terme, effectivement. La choisir de se mettre en couple et choisir son partenaire, une décision qui a beaucoup d'impact, une décision très importante, qui est donc réfléchie. On peut se permettre de comparer les coûts et les bénéfices à choisir avant de se mettre en couple et choisir la personne à qui on se met en couple. Et donc, à partir de là, on peut utiliser les outils des économistes qui s'intéressent aux mécanismes de décision et aux choix rationnels. Et d'autre part, pourquoi est-ce que c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les économistes? C'est parce que, finalement, selon Gary Becker, dans le choix du partenaire, il y a aussi une concurrence, une mise en concurrence. C'est-à-dire que, en tout cas pour les personnes hétérosexuelles, les hommes vont être en concurrence entre eux pour trouver leur partenaire féminine, et les femmes vont être aussi en concurrence entre elles pour trouver leur partenaire masculin. Et donc, il y a un marché concurrentiel qui peut donc aussi s'analyser avec les outils d'économistes qui sont spécialisés dans les analyses de marché concurrentiel.
Ce qui est intéressant, Marion Gousset, c'est que vous venez de citer Gary Becker, ce sont les années 70, je crois qu'il sort son article sur le sujet en 1973. Est-ce qu'avant cela, on peut dire que les économistes ne savaient pas vraiment comment se saisir de cet objet qu'est le couple ou la famille? Est-ce qu'il y avait une sorte de pudeur ou en tout cas de peur? En tout cas, on n'avait pas les bons outils. Et comment penser cet impensé, de fait?
Comment penser cette impensée? Oui, effectivement, je pense que c'était un peu une on analysait avant finalement le ménage de façon un peu quand on analysait les l'économie, c'était des ménages unitaires, donc on avait en tête une famille, c'était une unité finalement. Donc on s'intéressait moins à la aux formations internes, finalement.
Donc, ce que vous voulez dire, Marion Gousset, c'est que, et d'ailleurs un peu comme aujourd'hui dans les statistiques aussi, oui. C'est que la famille, elle est essentiellement considérée comme cette fameuse catégorie du ménage. Et donc, c'est une entité alors qui, certes, a un point économique et surtout en tant que consommateur, consommatrice, mais on ne voit pas tellement, on ne cherche pas tellement à voir ce qui se passe à l'intérieur avant Baker.
Non, exactement. C'est plus donc une unité avec justement un seul décideur, ce qui correspondait aussi à la réalité finalement dans les choix de consommation, d'épargne et même donc de vie. Hein. S'il y avait un décideur dans le ménage, donc finalement c'était une unité bien pratique à modéliser.
Et quand Gary Baker arrive, on va dire, sur ce terrain-là, on peut rappeler aussi qu'il a reçu le fameux prix Nobel, alors le fameux prix de la Banque de Suède, c'est donc que ses travaux sont quand même plutôt reconnus par la communauté des économistes. Quand il commence à s'intéresser justement à ce qui se passe à l'intérieur des familles, qu'est-ce qui relève du choix rationnel, cette mise en compétition que vous avez évoquée, quelle réception est faite de ces travaux? On se dit qu'effectivement, on n'avait pas pensé à ça avant et que ça vient apporter un éclairage nouveau.
Bah, ça a été très controversé, hein, évidemment, dans les autres sciences sociales. Gary Baker est très controversé, en fait. Il fait partie de ces économistes. On parlait parfois dans cette émission de l'hégémonie de l'économie et du fait que, justement, les économistes veulent toucher à tout avec leur modèle, y compris à des domaines qui jusque-là devaient être réservés à d'autres sciences sociales. Donc, ça n'a pas été. Je pense que c'est quelqu'un qui a été très controversé, toujours encore.
Et Marion Gousset, est-ce que Gary Baker parle spécifiquement de marché pour désigner justement le couple et la famille?
Oui, parle.
Il l'identifie comme tel.
Un marché du mariage, oui.
Claire-Lise Gaillard, est-ce aussi en raison de cette évidence finalement qu'on vient d'évoquer de l'offre et de la demande, et puis aussi peut-être en raison d'une certaine concurrence, d'une certaine compétition qui sont parfois clairement exprimées comme telles, que vous employez le terme de marché dans le titre de votre ouvrage?
Alors à la fois oui et non. En réalité, moi je parle de marché de la rencontre d'abord pour faire référence au passage d'activités qui relevaient plutôt des relations ordinaires vers une activité marchande. Donc pour le dire vite, le passage des marieuses aux intermédiaires rémunérés que sont les agents matrimoniaux. Et dans ce sens-là, il s'agit bien d'un marché au sens où il y a des entrepreneurs avec leurs prix qui se font concurrence, qui choisissent de se spécialiser dans une niche ou non. Mais j'ai aussi effectivement gardé ce mot-là puisqu'il fait référence directe à une catégorie qui est beaucoup utilisée par la démographie, qui est le marché matrimonial, qui effectivement utilise le terme de marché mais plutôt comme une métaphore, justement parce qu'il y a cette idée de concurrence et puis parce qu'il y a aussi cette idée que sur le marché matrimonial, on se vend et on s'achète. Et du coup, lorsque j'ai travaillé ce sujet-là, j'ai voulu faire l'histoire de cette expression de marché matrimonial. Et en fait, c'est l'histoire plutôt d'une métaphore moralisante où, au XIXe siècle, on utilise l'expression de marché matrimonial pour critiquer la manière dont, notamment, les princesses sont jetées en pâture sur le marché matrimonial européen et les négociations diplomatiques. Et pour analyser plutôt la manière dont les acteurs et les actrices, les hommes et les femmes, se choisissent tout en étant consciemment en concurrence les uns avec les autres, moi, pour ma part, j'ai choisi plutôt l'expression de champ que j'emprunte à Bourdieu pour insister sur le fait qu'il n'y a pas d'échange marchand. Il y a bien des échanges, effectivement, et l'économie est partie prenante importante de ces échanges-là, mais il s'agit d'échanges non marchands, d'échanges de biens symboliques, et qui nécessitent aussi la compréhension des codes spécifiques à ce champ-là.
Marion Gousset, on le comprend, l'acception du mot marché est très large, elle peut même être politique, ou en tout cas, elle peut porter un message, et non, parfois en termes de critique. On est d'accord que lorsque Gary Baker l'emploie, c'est au contraire, peut-être, pour objectiver la chose et en comprendre les mécanismes, il y a vraiment une notion de vouloir rationaliser finalement ces processus.
Oui, effectivement. Donc, il met en lumière que finalement, comme le marché des biens, les biens rares vont être plus chers. Le marché du mariage fonctionne un petit peu pareil. Par exemple, à certains moments de l'histoire ou dans certaines sociétés, le nombre d'hommes est relativement plus faible que celui des femmes. Donc les hommes vont être relativement plus rares, et bien ils vont être plus attractifs. Et donc on peut voir, par exemple au sortir des grandes guerres, que les jeunes hommes valides sont moins nombreux, et bien ils vont se marier mieux, au sens où ils vont trouver des partenaires issus de meilleurs milieux sociaux ou plus riche ou des choses comme ça. Donc donc là on a vraiment une histoire de rareté des ressources qui peuvent être prédites par l'analyse du marché en fait. telles que le font les économistes.
Et puis Marion Gousset, cette vision-là, vous l'avez dit, elle a été critiquée pour de très nombreuses raisons. Et puis finalement, la recherche avançant, la vision même du mariage et du couple évolue avec elle. On cherche aussi davantage à comprendre ce que peuvent apporter d'autres disciplines. Je parlais de la démographie, la sociologie, l'économie. Toutes et tous essayent de marcher main dans la main. Très concrètement, comment cette vision du couple évolue et de la famille de façon plus générale? Est-ce que l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité apporte quelque chose de nouveau à cette vision de la famille? Et si oui, laquelle?
Oui, ben évidemment, par exemple, l'analyse du marché du mariage par Becker suppose que toute l'offre rencontre la demande simultanément. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, tous les hommes et toutes les femmes se rencontrent au même moment, établissent un classement et puis ça trouve le meilleur appariement possible. Effectivement, on sait que les rencontres prennent du temps. En fait, le fait de trouver, on ne rencontre pas tout le monde en même temps, mais il y a des coûts de recherche, du temps de recherche, et donc ce qu'on parle de friction, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on sait de toute façon par l'expérience et le vécu, mais qui est aussi documenté en sociologie, notamment l'aspect de la rencontre, les cadres de la rencontre. On ne rencontre pas les mêmes gens en fonction de son milieu de vie, et donc ça va avoir des implications très fortes, en fait, bien au-delà de juste le classement de la meilleure personne possible. Il va y avoir effectivement qui est-ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Ça dépend beaucoup des lieux de socialisation. Donc ça, c'est des choses qu'on intègre maintenant dans les modèles en économie, dans nos modèles. On va prendre en compte le fait que les gens se déplacer vers le cadre du marché du travail, c'est-à-dire qu'on sait les gens mettent du temps à chercher un meilleur partenaire, et ils vont pas tout de suite se mettre en couple, ils peuvent attendre, en fait, pour trouver un meilleur match. Donc voilà, c'est des choses qu'on prend en compte et qui nous permettent d'expliquer aussi, de s'écarter du modèle d'appariement parfait de Gary Becker.
Et puis Marion Gousset, je crois qu'on n'a pas encore prononcé le mot, mais il y a ce mot d'homogamie qui résume un petit peu aussi toutes ces premières pierres qu'on vient de poser depuis le début de l'émission. Or, vous dites dans un article que vous avez écrit avec d'autres auteurs et qui est disponible, vous dites que pour comprendre les déterminants de l'homogamie socio-économique dans les couples, alors l'homogamie où il s'agit de comprendre non seulement comment se fait la rencontre entre deux individus, mais aussi les raisons pour lesquelles chacun décide de donner suite à cette rencontre, déjà une autre étape, et il faut bien comprendre la notion de bénéfice escompté pour comprendre les déterminants de ce choix-là. Il s'agit non seulement, et là c'est peut-être important de faire cette distinction-là, Marion Gousset, c'est non seulement de bénéfices monétaires, enfin de revenus escomptés, mais aussi de bénéfices qui ne se calculent pas forcément, qui ne se quantifient pas forcément. Quelle en est la nature?
Ah oui, effectivement, on est bien conscient aussi que tout n'est pas monétaire dans le mariage, évidemment. Donc on va parler de bien-être, et donc c'est une sorte de bien-être. On va raisonner avec de l'utilité. En économie, on a nos modèles où les individus maximisent non pas juste leurs revenus, mais maximisent leur utilité. Et donc c'est ce qui va se passer quand deux personnes, on modélise que quand deux personnes se mettent en couple, elles créent du bien-être ou une utilité forte qu'elles vont se partager, en fait. Donc elles peuvent à la fois, il y a un certain bien-être dont elles peuvent profiter simultanément toutes les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle un bien public, un bien, par exemple, avoir des enfants ensemble, passer du temps avec eux. Mais il va y avoir aussi un partage, des ressources, et puis des choses qui peuvent se partager. Donc c'est ça qui va agir dans le marché comme un prix, en fait, avec un partage de ces ressources-là.
C'est-à-dire que non seulement on cherche peut-être une complémentarité de revenus, mais aussi une complémentarité de goût. En fait, c'est comme ça que les économistes prennent en compte finalement l'idée de match, on va dire, l'idée que nos goûts correspondent. Ça aussi, ça peut être l'objet de modèles.
C'est ça. Donc là, on revient à justement Gary Becker, qui lui trouvait que la famille, c'était comme une petite unité de production. Donc deux personnes vont ensemble produire donc ce fameux bien public et un bien-être. Et donc pour le produire au mieux, ça va dépendre un petit peu de la fonction du couple, mais si on s'imagine que c'est effectivement à consommer le mieux, à maximiser ses ressources et puis élever au mieux ses enfants ou passer du temps de loisir ensemble, il va falloir trouver le partenaire avec lesquels les caractéristiques vont permettre le partenariat, ça va vraiment fonctionner comme un partenariat économique avec lesquels la production va être maximisée, effectivement.
Et on comprend, il y a cette notion finalement de pari sur l'avenir aussi, on anticipe, on attend quelque chose du futur conjoint ou de la future futures conjointes. Claire-Lise Gaillard, alors on va rentrer dans le détail historique et de tout se dérouler, cette mise en place un peu plus tard, mais peut-être une première indication. Est-ce que cette dimension finalement monétaire, mais aussi affective, attendue, en fait, est-ce que la dimension d'anticipation sur le futur, de la façon dont on veut construire son futur, elle rentre en ligne de compte dès la fin du XVIIIe siècle, puis au XIXe et début XXe, dans le choix du conjoint?
Oui, elle rentre en ligne de compte et même à peu près pour tous les critères, mais en particulier pour les critères économiques, puisqu'on voit bien que c'est une projection sur l'avenir. Et dans les annonces, les petites annonces que j'ai étudiées dans le cadre de ce livre, on voit que, notamment sur les critères économiques que veulent les hommes et les femmes demandent aux hommes d'avoir des situations d'avenir, des professions d'avenir. Alors que les hommes demandent aux femmes d'avoir du patrimoine, d'avoir des dots, des héritages, on appelle ça les espérances. Donc en fait, plutôt d'avoir de l'argent accumulé à la génération précédente, donc plutôt du passé. Et l'idée, c'est que une partie de ces annonces, en tout cas pour les plus jeunes filles à la fin du 19e siècle, sont rédigées par les parents. Donc ce sont même plutôt, là la famille, on parlait de la famille comme entité de production, là c'est la famille au sens large et pas seulement le couple nucléaire, qui cherche à produire non pas du bien-être, mais plutôt de la richesse, en peut-être investissant pour le beau-père dans l'industrie d'avenir de son gendre.
France Culture.
Moi, j'aimerais tenter avec vous un état des lieux de votre paysage éthico-affectif.
Pardon ?
Entendez-vous l'écho ?
Enfin, voyons ça autrement. Vous préférez l'argent ou le bonheur ?
Les deux. Je vais acheter une ferme en Normandie. J'ai besoin d'une femme économe, fidèle, travailleuse pour pouvoir gérer tout ça.
Aliette Ovine.
Marion Gousset, une dernière précision aussi peut-être d'un point de vue de la recherche et puis d'un point de vue des notions définitionnelles. Quelle différence on peut faire entre cette fameuse homogamie, soit la volonté mutuelle des conjoints de former un couple avec un partenaire dont les caractéristiques sont proches des leurs, avec vraiment cette notion de volonté, et puis finalement juste une corrélation finalement entre les caractéristiques des conjoints. Est-ce qu'on sait déterminer quand est-ce que cela relève de la stratégie, quand est-ce que cela relève un peu du hasard quelque part?
C'est pas évident en fait, on continue à travailler là-dessus justement. Pourquoi les forces qui mènent à l'homogamie? Donc il y en a plusieurs, effectivement les préférences, le fait de vouloir un partenaire proche de soi pour être d'accord sur plusieurs décisions au cours de la vie familiale. Il y a aussi les lieux de rencontre, tout simplement on rencontre les personnes similaires dans son cadre de vie, et puis ces forces de marché dont on a parlé. Si par exemple il y a une concurrence et que tout le monde veut se mettre en couple avec les personnes les plus riches, les plus éduquées, les plus belles, et bien naturellement, le marché fait que les personnes les plus éduquées, les plus belles vont être ensemble, et les personnes les moins éduquées, les moins riches et les moins belles vont être ensemble. Donc une homogamie peut se créer un peu par ces trois forces, et c'est pas évident en fait de séparer ces mécanismes, parce que ces trois mécanismes différents aboutissent à la même conclusion, il y a de l'homogamie. Et donc on se doute qu'il y a une part un peu des trois mécanismes à l'œuvre, et donc on va essayer de regarder un petit peu, on va regarder qu'est-ce qui se passe si il y a des études récentes, par exemple en Norvège, sur des personnes qui vont dans différentes universités. Qu'est-ce qui se passe si au dernier moment on les change de programme et qu'elles ne vont pas dans l'université qu'elles souhaitaient mais dans une autre? Qu'est-ce qui va se passer en termes de formation des conjoints? On essaie de chercher dans des expériences finalement naturelles, des phénomènes qui vont permettre de séparer ces différentes causes, mais je dirais qu'on n'a pas complètement tranché sur les parts de ces trois facteurs.
Et puis surtout qu'il y en a un qui doit être quand même particulièrement compliqué à quantifier et à définir. Comment un économiste peut se saisir du critère de la beauté, par exemple, en termes d'homogamie?
Alors, il y a plein d'expériences qui demandent, par exemple, à des personnes de regarder des photos, plein de photos, et de noter entre 1 et 5 la beauté de la photo. Et puis quand on fait une moyenne, en fait, on trouve on arrive à mesurer de façon un petit peu objective la beauté des individus, et notamment aussi qui est parfois relié à l'indice de masse corporelle en fait. Donc il y a plusieurs, c'est pas parfait hein, c'est des mesures hein, elles sont toutes imparfaites, mais si il y a des travaux qui essayent de mesurer la beauté.
Et puis surtout, ça implique aussi de bien prendre en compte dans cette modélisation le poids du contexte social. Ça doit jouer énormément aussi.
Oui, bien sûr.
Marion Gousset. Le contexte social qui joue donc dans les déterminants du choix du conjoint et surtout dans sa recherche. Et c'est peut-être d'autant plus vrai à la fin du XVIIIe siècle. Claire-Lise Gaillard, la Révolution française, elle va ouvrir des perspectives d'ascension sociale. Donc ça, c'est pour le contexte. On se met pas tout de suite à chercher forcément l'âme sœur spontanément en toute liberté. Est-ce que le mariage, à partir du moment où l'ancien régime est aboli, est tout de suite vu comme une façon de se faire une place finalement dans cette société nouvelle qui advient ?
On peut pas dire que ce soit quelque chose qui est nouveau, dans le sens où évidemment, c'était le cas avant la Révolution française, le mariage est pensé comme une alliance des familles, comme un établissement. Mais effectivement, ce qui change au début du 19e siècle, c'est que la bourgeoisie grandissante qui prend en force utilise le mariage précisément comme une sorte d'arme de classe pour s'enraciner au centre du pouvoir social, pour le dire vite. Et précisément, les agences matrimoniales qui naissent simultanément se mettent au service de cette bourgeoisie-là et principalement, d'ailleurs, au service plutôt d'une clientèle masculine qui n'est pas la bourgeoisie la mieux intégrée à la société parisienne, mais plutôt une bourgeoisie issue de province qui veut s'installer à Paris et justement s'établir dans tous les sens du terme et qui vient chercher à l'agence matrimoniale les informations et plutôt les relations qui lui manquent, puisque ce sont des relations en province. Et donc, il vient les acheter les informations chez l'agent matrimonial pour avoir accès à des jeunes filles de bonne famille auxquelles elle n'aurait pas accès, puisqu'au début du 19e siècle, il y a aussi un effet de renfermement de l'entre-soi bourgeois face à une sorte de brouillage des étiquetages sociaux avec la Révolution. Qui est un nouveau riche? Qui est d'ancienne fortune? Qui est de noblesse d'empire? Qui est de noblesse d'ancien régime? Etc.
C'est intéressant, ça veut dire que les agences matrimoniales viennent remplacer peut-être une sorte de cercle social ou de lieu de sociabilité auquel certains individus n'auraient pas accès. C'est presque une démarche de démocratisation, on va dire, de l'espace social.
En tout cas, c'est la manière dont c'est vendu effectivement par les agents matrimoniaux, l'idée de donner une visibilité et une centralité au marché matrimonial, de permettre à chacune et chacun, plutôt chacun d'ailleurs, d'avoir, comme les gens les mieux intégrés, une vision de la réalité des hommes et des femmes à marier.
Mais Frosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu? Qu'elle fît quelque effort? Qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on pas une fille sans qu'elle apporte quelque chose?
Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente.
12 000 livres de rente?
Oui.
Voilà, une adaptation de la pièce de Molière, évidemment, L'Avare, avec Louis de Funès, vous l'aurez sans doute reconnu. L'Avare qui est donc joué pour la première fois en 1668, ça rejoint ce que vous disiez, Claire-Lise Gaillard, l'idée que même dans la société de l'Ancien Régime, les filles étaient déjà des sortes de rouages dans des stratégies économiques et matrimoniales bien plus vastes. Il y a déjà, évidemment, ce système de dot, on se sert déjà... Alors, vraie question, est-ce que les filles à marier, on va dire, sous l'Ancien Régime, il y a le système de dot à peu près pour tout le monde, sauf, j'imagine, les couches les plus basses de la société. Ça peut être des stratégies, vous l'avez dit, pour les princesses, lors de stratégies, on va dire, diplomatiques. Ça peut être des stratégies foncières. Enfin, bref, les filles sont au centre de ces mécanismes-là. Qu'est-ce qui change après la Révolution française? C'est quelque chose qui est remis en cause ou au contraire, c'est une confirmation de ce rôle-là?
Non, c'est véritablement une confirmation de ce rôle-là et de façon plus générale. En histoire des femmes, la Révolution française a été plutôt une défaite, une défaite politique des femmes, mais aussi une défaite dans la sphère privée, défaite qui est venue consacrer le Code civil, où effectivement les tractations, les négociations matrimoniales sont le reflet d'un échange économique qui est géré par les hommes, soit le futur mari et les hommes de la famille, et dont la jeune fille est l'objet, mais un échange qui est géré par d'autres qu'elle.
Et de fait, on l'a bien compris, la Révolution française ouvre de nouvelles possibilités. Or, on a parlé des agences matrimoniales, mais il faut aussi citer le rôle des journaux que vous avez beaucoup étudié, Claire-Lise Gaillard. Ils sont là pour combler cette demande nouvelle, vous l'avez dit, des bourgeois potentiellement de province et plutôt masculin. Vous citez deux journaux, l'Indicateur des mariages et le Courrier de l'Hymen notamment, et qui, vous le dites, partagent un dessein patriotique, offrir à la nation des citoyens régénérés par des mariages mieux assortis. Là, c'est quand même assez incroyable de voir cette dimension politique presque démocratique, encore une fois, mise, quasiment assumée, Claire-Lise Gaillard.
Oui, c'est à la fois la première fois, mais c'est pas la dernière dans l'histoire du marché de la rencontre. Effectivement, ces deux journaux matrimoniaux sont deux premières expérimentations avant la naissance des agences matrimoniales, plutôt sous la monarchie de Juillet. Et ils naissent véritablement dans un élan révolutionnaire de la part d'une bourgeoisie bien installée qui revendique justement de mettre au service de la bourgeoisie masculine des mariages auxquels cette bourgeoisie n'aurait pas eu accès avant la Révolution, donc pour le dire très vite, de permettre à des bourgeois d'épouser des jeunes aristocrates qui leur apporteraient le bien symbolique de la noblesse. Et effectivement, ces mariages-là sont perçus comme quelque chose qui permettrait de régénérer la nation. Et ça fait écho aussi à ce qui a été fait à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la critique des conventions aristocratiques dans le mariage et en même temps des célibataires. On a beaucoup critiqué l'oisiveté des vieux garçons à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ces entrepreneurs de presse-là choisissent de miser sur cet outil publicitaire pour vendre leur service, c'est-à-dire un service qui se veut patriotique, révolutionnaire. Et à côté des annonces matrimoniales, ils mettent aussi en scène des petites nouvelles qu'ils vendent comme des histoires réelles, dans lesquelles des aristocrates préféreraient épouser un roturier, aux valeurs nobles dans le cœur, plutôt qu'un possesseur d'esclaves, par exemple.
Oui, donc il y a quand même une dimension morale, on va dire, assez forte. Je crois qu'en plus de ces journaux-là, vous avez parlé aussi d'un bureau de confiance pour les mariages à Paris. C'est centralisé, c'est chapeauté aussi, encore une fois, par des institutions politiques. Le mariage est une chose prise très au sérieux à l'époque.
Oui, et en même temps, ce qui change pour le coup entre cette première expérience révolutionnaire, ce qui fait qu'elle est un peu inédite par rapport au bureau de confiance pour les mariages plus tard, c'est que sous la Révolution, les femmes sont considérées comme des interlocutrices politiques, c'est-à-dire que l'adéquation des opinions politiques est considérée comme un critère nécessaire à la bonne entente des époux. Et ça, c'est quelque chose qu'on perd totalement au XIXe siècle, après la Révolution française, et ça a du sens aussi dans la mesure où les femmes ne sont pas électrices. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une défaite politique des femmes, et donc elles sont considérées plutôt comme une entité représentée par le vote familialiste du pater familias. Donc, de fait, le critère de la bonne entente politique peut concerner uniquement les pères et les gendres, justement, et les beaux-pères.
Et de fait, on retrouve effectivement cette image de jeune femme ou de fille à marier comme simple rouage relativement passif, finalement, de ces stratégies-là. Quand est-ce qu'on va basculer, finalement, de ces petites annonces, de ces bureaux, etc., à la structuration, véritablement, en agence matrimoniale ?
Alors justement, ça commence sous la monarchie de Juillet, puisque c'est un moment où les agents d'affaires sont extrêmement nombreux à Paris. Les agents d'affaires se mettent au service de la bourgeoisie pour gérer une grande variété d'affaires, justement, pour la bourgeoisie. Ça peut aller d'organiser un voyage, gérer des lettres de change ou négocier un mariage, voire trouver soi-même la fiancée. Et comme justement ils se font concurrence, certains se spécialisent dans une niche qui est la recherche de fiancée ou simplement faire des enquêtes avant mariage. Et parmi eux, il y a Claude Villaume qui est justement l'inventeur de l'agence générale et centrale, qui l'a voulu sur le modèle de l'agence générale et centrale de Théophraste Renaudot, l'inventeur, le père tutélaire de la presse. Et Villaume avait une véritable ambition de monopole. Il a même fait une demande auprès de l'empereur pour avoir un monopole sur ce marché-là, pour le coup. Il n'est pas le seul, il avait un concurrent. Ni l'un ni l'autre n'a eu ce monopole. Et il s'est donc rabattu sur la presse en estimant que cette presse avait une force de frappe suffisamment grande. Et c'est vrai, la presse d'annonces, dès la fin du XVIIIe siècle, a une force de frappe très importante. On n'y trouve que des annonces, à la fois commerciales et personnelles. Et il passe dans ces annonces-là à la fois des annonces matrimoniales pour ses clientes et ses clients, mais aussi, puisque son agence générale et centrale fait les deux, des annonces pour des domestiques, par exemple. C'est aussi un bureau de placement.
Donc on quitte peut-être la dimension très bourgeoise aussi que vous évoquez avec ces journaux qui cherchent à s'adresser à tous. Et puis Claire-Lise Gaillard, il y a peut-être là où vous parlez de monopole, de concurrence, etc. C'est peut-être là en fait finalement que se situe véritablement ce marché matrimonial. Il est dans la constitution de ces acteurs-là.
Oui, tout à fait.
Et pour le coup, la demande ne faiblit pas, même au début du 19e, quand la bourgeoisie commence à s'installer et qu'on pourrait se dire que peut-être qu'il y a une fluidité sociale un peu plus importante, cette demande bourgeoise reste très présente.
Oui, la demande bourgeoise reste très présente et effectivement, le nombre d'agences matrimoniales ne fait que croître au fil du 19e siècle. Et c'est même dans le dernier tiers du 19e siècle qu'elles sont les plus nombreuses. Il y a même des journalistes qui racontent sur le modèle du « J'ai testé pour vous » la manière dont ils sont allés enquêter dans des agences matrimoniales, dont ils ont failli se retrouver fiancés contre leur volonté. C'est quelque chose, en tout cas, qui occupe le paysage médiatique, même si ça reste évidemment une manière de se rencontrer marginale. Mais il y a un décalage entre la réalité des pratiques, l'ampleur des pratiques et la place que ça prend dans le paysage médiatique, précisément parce que ces agences donnent à voir l'imbrication entre l'économie et l'intimité, qui, précisément à la fin du 19e siècle, est de plus en plus problématique en raison de l'essor de l'idéal du mariage d'amour qui contrevient aux enjeux propres à la bourgeoisie de conservation du patrimoine. Donc ça met la bourgeoisie face à ces contradictions. Et justement, à la fin du 19e siècle, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'essor de la presse. Sous la Troisième République, il y a enfin, dans les années 1880, des lois sur la libéralisation de la presse qui permettent le développement de presse à grand tirage qui, pour se financer, ouvre des quatrièmes pages à la quatrième page des rubriques de petites annonces dans lesquelles on trouve à la fois les publicités des agences et des petites annonces de particuliers. Et ça donne à voir au vu au-dessus de tous, ça passe dans toutes les mains et sous les yeux parfois les plus chastes, le fait qu'il y a bien effectivement dans le mariage un enjeu économique premier. Et cette proximité entre l'économie et l'intimité n'est pas sans rappeler finalement la prostitution, qui d'ailleurs trouve dans ces rubriques aussi, parfois dans les rubriques mariage, parfois dans des rubriques divers, distraction, une manière de faire du racolage qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc il y a cette mise à nu de cette intrication qui suscite aussi la critique.
On parlait de Viviana Zelizer dans une émission la semaine dernière, jeudi. C'est vraiment cette idée-là qu'au moment où ces sentiments deviennent presque sacrés, deviennent inestimables, le fait de les rationaliser devient relativement insupportable, en tout cas aux yeux du grand public. Mais Claire-Lise Gaillard, est-ce qu'on n'arrive pas à une sorte de paradoxe? Finalement, il y a certes une demande, et une demande bourgeoise, mais bon, finalement, on sent bien que tout ça n'est pas très assumé et en tout cas ne fait pas non plus consensus au sein de la société. Et comment ces agences matrimoniales, d'un point de vue du modèle économique, parviennent-elles à survivre dans ces conditions-là ?
C'est effectivement un vrai défi. Il faut à la fois être connu, puisque pour que ça marche, il faut que ça marche, dans le sens où pour que les mariages soient faits, il faut déjà avoir un répertoire important. Et en même temps, il faut assurer la discrétion. Donc, il y a effectivement un contraste entre le nombre de publicités pour des agences matrimoniales qui garantissent célérité et discrétion, et justement toute leur rhétorique du secret, de la dimension de garantie. Et donc les agents matrimoniaux vont par exemple rassurer leur clientèle en disant que les registres sont inscrits par un système de hiéroglyphes que seul le directeur de l'agence matrimoniale connaît, que tout disparaît à la mort des agents matrimoniaux, que tout est brûlé. Alors fort heureusement pour l'historienne, ce n'est pas toujours le cas grâce aux archives judiciaires et aux procès donc, qui opposent les agents à leurs clients ingrats, qui oublient de payer la commission sur la dot, ce qui permet quand même de retrouver ces dossiers et de travailler dessus. Mais néanmoins, il y a donc toute une série de stratégies de discrétion, comme par exemple le fait de choisir dans Paris des quartiers qui ne sont pas les quartiers bourgeois, où on ne risque pas de croiser ses voisins, ou même à l'intérieur de l'agence, un système de circulation à sens unique avec deux escaliers, qui fait qu'on ne risque pas non plus de croiser une connaissance qui risquerait de raconter l'affaire sur la place parisienne.
Donc on comprend que la discrétion est de mise pour rassurer une clientèle bourgeoise qui a recours à ce système de petites annonces ou d'appariement via les agences. Donc la bourgeoisie est au centre de ce mécanisme-là. Aujourd'hui, Marion Gousset, je fais un grand écart entre les deux périodes. Aujourd'hui, Marion Gousset, où retrouve-t-on le plus fort niveau d'homogamie dans la société? Est-ce que cela concerne toutes les classes sociales, tous les niveaux de revenus, ou est-ce que cela concerne quand même davantage le haut de la distribution de revenus? Est-ce qu'on sait mesurer ça ?
Oui, bah alors ce qu'on sait mal mesurer, c'est l'évolution, parce que mesurer l'homogamie, il y a plusieurs types de mesures, mais c'est est-ce que combien de personnes, parmi les personnes qui sont en couple, ont le même niveau d'éducation que leur partenaire, par exemple ? Ou alors, quelle est la probabilité de se mettre en couple avec une personne de son niveau d'éducation par rapport à la probabilité de se mettre en couple avec une personne qu'on croise au hasard dans la population ? Et en fonction de quelles mesures on utilise, c'est difficile de... En fait, elle précise pas forcément les mêmes tendances. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'homogamie partout, dans toutes les sociétés, dans tous les niveaux d'éducation et à toutes les périodes. Donc, c'est quelque chose qui est très stable. Elle se renforce forcément dans le haut de la distribution d'éducation parce que les femmes n'étaient pas éduquées avant. Maintenant, elles sont plus éduquées que les hommes. Donc, c'est plus facile de trouver un partenaire. Enfin, quand les deux partenaires ont deux niveaux d'éducation très élevés, ce qui était évidemment pas du tout possible il y a 50 ans.
Et on voit que là encore le contexte social joue beaucoup. L'autre parallèle qu'on peut faire aussi entre cette histoire très longue et puis la situation actuelle, c'est que finalement ces agences matrimoniales dont on parlait, elles servent à compenser le biais que vous avez évoqué un peu plus tôt, Marion Gousset, cette idée d'un marché certes, mais d'un marché qui est largement imparfait puisqu'il est impossible d'avoir en tête ou d'avoir une vision complète de toute l'offre et de toute la demande. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est une façon d'anticiper peut-être aussi cette critique qu'on a pu adresser à cette idée de marché.
Oui, donc effectivement, les agences matrimoniales, aujourd'hui, maintenant, ça va être évidemment les annonces en ligne, hein, les sites de rencontres en ligne qui maintenant réduisent énormément donc ce que j'appelais les frictions. Avec les sites de rencontres en ligne, on est capable de rencontrer beaucoup plus toute l'offre et la demande simultanément au même moment. Et effectivement, c'est censé avoir réduit énormément les frictions et de permettre des rencontres beaucoup plus générales.
Alors justement, cet appariement ne se fait pas sans une certaine aide. Un marché de la rencontre se crée de toutes pièces tout au long du 19e et perdure pendant le 20e siècle, on l'a compris, voire même jusqu'à aujourd'hui. Dès lors qu'on se penche, vous l'avez dit Marion Gousset, sur le cas des applications de rencontres et des sites de rencontres en ligne qui rationalisent à l'extrême le processus, c'est ce qu'on entend dans cet extrait d'un épisode des Pieds sur Terre, diffusé en juin 2015 sur France Culture.
Adopte un mec, c'est quoi le principe ? C'est une nana qui met des hommes dans un panier. D'accord ? Ça veut dire qu'elle a le choix de discuter avec qui elle veut. L'homme envoie un charme, à elle ou non de décider si elle a envie d'accepter le charme, donc l'envie de discuter avec cet homme ou pas. Donc t'as un système de points. Et ce système de points, concrètement, il sert à montrer ta popularité. En gros, si t'es une fille sur Adopte un mec, alors là, elle avait 51 960 points au moment où j'ai fait l'imprimé écran. Donc c'était il y a plus d'un an et demi maintenant. Donc elle venait de faire son compte, elle venait de s'inscrire. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 semaines, quand t'es une fille, tu peux atteindre ce nombre-là. Quand t'es un mec, ça va te prendre 4 mois, 5 mois pour en arriver là. Parce que sur Internet, les filles vont être harcelées en permanence. Elle a reçu 860 charmes en tout. Et sur ces 860 charmes qu'elle a reçus, 215 mails, ça veut dire qu'elle en a accepté que 215.
Donc elle a parlé avec 215 garçons.
Exactement. Après, tu as des détails voilà, sur les mensurations, le type de cheveux, la couleur des yeux, la profession, etc., etc. Mais voilà, ce qui est marquant, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que sur un profil d'homme, cette partie-là, si tu ne la, voilà, la description, si tu ne la remplis pas, ce sera beaucoup plus compliqué pour toi de sortir du lot, clairement.
Voilà, tout est rationalisé, quantifié, calculé presque. Pour autant, Marion Gousset, est-ce que l'apparition de ces applications de rencontres ou sites de rencontres sont-ils une façon de lutter, alors peut-être pas volontairement, mais en tout cas de réduire l'homogamie ? Est-ce qu'on a vu peut-être une baisse de l'homogamie après la mise en ligne de ce genre de site ?
Bah, justement, non, en fait. Ça a été un résultat assez surprenant. On se disait, effectivement, ça y est, maintenant, tout le monde peut choisir. Donc, en fonction de ses préférences, pas forcément en fonction de son lieu de rencontre. Et en fait... Aujourd'hui, hein, c'est le mode de rencontre le plus dominant, hein, la rencontre en ligne. C'est plus de 40% des couples hein, qui se sont rencontrés en ligne, ce qui est très très largement dominant et ça a explosé très très vite. Et en fait, l'appariement de ce qu'on sait aujourd'hui est finalement assez similaire à ce qu'il y avait avant. Donc bah, voilà, finalement, la recherche et le fait de se présenter, de chercher finalement des personnes assez similaires, fait que finalement, ça réduit pas, ça maintient un niveau d'homogamie assez élevé.
Clarisse Gaillard.
Oui, sur cette question-là, effectivement, c'est intéressant aussi de voir les choses sur le temps long et de voir que, effectivement, on pourrait penser avec l'idée de révolution du mariage d'amour et de l'émergence d'une sorte de marché libre des désirs, on pourrait avoir des unions qui sont plus transclasses, moins homogames. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu, en fait, une transformation des critères dans le sens où on a davantage de critères physiques et moraux. Et on pourrait penser que ça va dans le sens d'un amour qui n'est
ouvert,
pas
oui.
plus ouvert, pas imbriqué dans l'économie. Mais lorsqu'on regarde dans le détail, en fait, ces critères physiques et moraux sont aussi des critères sociaux et économiques. Pour ne prendre qu'un exemple, dans l'entre-deux-guerres, les femmes disent très souvent qu'elles ont les cheveux longs. Les hommes disent aussi qu'ils refusent les femmes avec les cheveux courts. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on refuse les jeunes filles qui ont une coupe à la garçonne, parce que ça fait référence à une trop grande modernité, probablement à des jeunes filles qui travaillent, plutôt des classes populaires. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu le bout de la chaîne aujourd'hui, lorsqu'on voit que sur les applications de rencontres, on fait encore des rencontres, on fait des choix plutôt. En fait, on fait des rencontres avec tout le monde, dans le sens où chaque partenaire, enfin justement chaque personne est présentée comme un partenaire potentiel au même titre. Et donc ça pousse à expliciter les règles de choix des partenaires, et c'est aussi le désir qui a intériorisé les normes économiques et sociales. La manière dont on est habillé, les types de loisirs sont perçus comme simplement des préférences, et en réalité c'est aussi des préférences sociales.
Tout dépend donc, on le comprend, des critères sélectionnés lors de la recherche, alors qu'elle soit confiée à des professionnels comme au 19e et 20e siècle, ou à des algorithmes au 21e siècle. Alors quels sont spécifiquement ces critères, comment ont-ils évolué, dans quelle mesure sont-ils surtout économiques? On en parle juste après Catherine Sauvage qui chante Les Beaux Mariages.
Galante, je le mondaine, il me sermente, je le seizième, puis il m'élégante, je le câline, il me diamante, je m'essaline, il me mécène et métaphore, je parisienne, oh je l'adore, mais il m'alliance, me Notre-Dame, et m'assurance, je suis sa femme, puis fidèle, il me famille, puis je rebelle, quel imbécile, je le mégère et me dragonne, je le vipère, il m'abandonne, mais je scandale, je fanfaronne, je tribunal, il me pensionne.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Le couple et le mariage ne sont-ils qu'affaires de rationalité économique, et comment la notion de beau mariage a-t-elle évolué au cours des siècles? Nous en parlons avec l'économiste Marion Gousset et l'historienne Claire-Lise Gaillard, qui a parcouru les archives des petites annonces et autres articles de presse spécialisés pour y trouver des traces de ce que recherchent les individus en quête d'appariement, comme par exemple cette lettre reçue par l'agence Bourgois en 1881 d'un douanier suisse.
Parcourant par hasard un journal, mes yeux tombent sur votre annonce. Dès ce moment, je suis devenu tout rêveur, car depuis quelque temps déjà, je me disais que je serais heureux, si je trouvais en mariage une femme riche, mais mariage d'amour. Mon emploi est pour moi à l'état trop lent. C'est pour cela que j'aurais voulu être riche, pour entreprendre quelque chose de plus conséquent. Quoique d'une famille connue pour être honorable, je ne puis rien attendre d'eux, car nous ne possédons pas de fortune. Jamais je n'aurais osé lever les yeux sur une fortune aussi considérable. Mais en lisant votre annonce, je me suis dit que ce ne sont pas les riches partis qui ont manqué, mais on cherche un garçon pauvre et honnête. Vous allez croire que je ne cherche que la fortune. Si cela était, j'en serais chagriné. Je vous dirai donc franchement, oui, la fortune, mais la fortune sans amour, jamais. Je suis sûr que mademoiselle m'aimerait en peu de temps. Quant à moi, j'ai aussi un cœur pour aimer. Et d'après le portrait que je me suis fait de mademoiselle, je me sens pris déjà d'une grande amitié pour elle. Veuillez, je vous prie, présenter ma lettre à mademoiselle. Et si elle va entrer en correspondance avec moi, je serai bien heureux. J'ose espérer, très honoré monsieur M, que ma lettre trouvera un écho dans le cœur de mademoiselle et qu'elle ne me dédaignera pas. J'espère que si j'ai le bonheur de faire la connaissance de mademoiselle, elle me trouvera de son goût.
Oui, la fortune, mais la fortune sans amour, jamais, Claire-Lise Gaillard. On retrouve là cette idée de vouloir au moins emballer de certains sentiments moraux, tout de même une forme d'efficacité économique. On est là à la toute fin du 19e siècle. Dans quelle mesure les arguments économiques restent tout de même, on va dire, un facteur de poids dans la recherche de la conjointe? Et là, je parle vraiment de ce que recherchent les hommes vis-à-vis des femmes dans ce contexte-là.
En fait, les facteurs économiques restent premiers dans le sens où, à la fin du 19e siècle, alors qu'il y a dans les représentations l'idéal du mariage d'amour qui s'installe, on continue de devoir gérer les questions d'homogamie dont on a déjà parlé. Et comment est-ce qu'on résout cette contradiction avec l'idée qu'un mariage d'amour est en fait un mariage bien arrangé et que c'est précisément parce que l'alliance des familles est bien arrangée qu'il y a un équilibre entre les fortunes, qu'il y a un investissement qui va être bien rentabilisé. Là, c'est ce que demande en fait ce candidat. Oui, tout à fait. Il dit que lui n'a pas d'argent et qu'il est empêché par cette absence de fortune parce qu'il est entrepreneur et qu'il aimerait entreprendre quelque chose de plus grand. Donc on considère que c'est une fois que tout ça est bien assorti que l'amour va pouvoir être le couronnement de cet assortiment et non pas le piédestal d'autre chose.
Et est-ce que les critères varient lorsqu'on bascule, on va dire, lorsque ce sont les femmes qui recherchent des hommes? Parce que là, c'est plus difficile de se dire que l'esprit d'entrepreneuriat est valorisé.
Alors, en fait, il est beaucoup plus rare que ce soit les femmes qui recherchent des hommes, et ça, c'est un fil rouge même de tous les extraits qu'on a entendus. Le 19e siècle ancre vraiment l'idée que le rapport de séduction se fait selon le modèle selon lequel l'homme propose et la femme dispose. C'est-à-dire que les femmes, très souvent d'ailleurs les jeunes filles, ne sont mises au courant des négociations matrimoniales qu'au moment où, justement, elles sont mises en relation avec les prétendants et où il leur revient de consentir. Donc on estime qu'il ne faut pas embêter les jeunes filles avec les questions d'argent, qu'il ne faut pas défaire leur pureté liée à ça, et qu'on va s'assurer d'abord que ces questions sont réglées pour que l'amour pur puisse advenir. Et donc ça correspond encore une fois à cette vision des sphères séparées telle que Viviana Zelizer l'a théorisée, qui ne devraient pas se mêler au risque de se corrompre.
Et de se polluer l'une l'autre. Et puis vous avez mentionné quelque chose de très important, Claire-Lise Gaillard, c'est à la fois l'importance des familles qui passent potentiellement les annonces au nom des jeunes filles. Là, on entendait un extrait d'un jeune homme qui prenait l'initiative finalement d'adresser cette lettre. En tout cas, on comprend que allier raison et sentiment, c'est sans doute une nouveauté lourde de conséquences pour cette fin de 19e siècle. Et justement, au tout début du 19e siècle, Jane Austen montrait que la rationalité des sentiments se situait ailleurs.
Je crois qu'il faut que vous sachiez certaines choses à propos de mon frère Edward. Vous devez savoir que ma mère, Madame Ferrars, a fondé sur Edward d'immenses espoirs. Je suis sûre qu'il s'en montrera
digne. Bien sûr, je parle de sa carrière et de son mariage.
Nous souhaitons tous qu'il épouse une jeune lady ayant ou un rang social élevé ou une grosse fortune, de préférence les deux, bien sûr.
Je vois.
Donc son bonheur va dépendre de notre mère et de sa volonté. S'il se dresse contre elle, il n'aura rien du tout. La conséquence, c'est que toute jeune femme qui voudrait le séduire ou se l'accaparer s'exposerait à une très vive déception.
Voilà, c'est un extrait de l'adaptation de 1995 de Raison et Sentiment, du roman de Jane Austen. Là, Clarisse Gaillard, on entend quelque chose d'important, c'est que finalement, c'est une mère qui œuvre en coulisses pour que son fils fasse un beau mariage, quitte, on l'entendait, à utiliser le chantage. Est-ce que progressivement, les parents vont se détacher des affaires de leurs enfants tout au long du 20e et puis du début du 19e, puis au début du 20e? Est-ce que ces affaires-là sont laissées aux mains de candidats libres, on pourrait dire?
Oui, c'est ce qu'on appelle en sociologie l'individualisation de la quête matrimoniale. Et c'est quelque chose qu'on voit effectivement au 19e siècle pour les jeunes hommes. Dans les agences matrimoniales, il arrive que les mères, puisque pour le coup ce sont très souvent elles qui sont en charge de ces questions-là, il arrive qu'elles soient, elles, directement d'abord aux prises avec les agents matrimoniaux et les marieuses. Et en général, ceux-ci refusent d'aller plus loin dans les négociations si le jeune homme n'est pas véritablement partie prenante, s'il n'est pas au courant. Il demande véritablement qu'il s'investisse. Il y a quand même cette idée que ça correspond à la galanterie française, qu'il faut faire le premier pas, que c'est un attendu de virilité. Et pour les femmes, cette conquête du choix personnel est reculée presque de plus d'un siècle, alors que pour les hommes, au 19e siècle, il paraît incongru qu'un jeune homme ne soit pas associé aux recherches de son épouse. Pour les femmes, à la fin du 19e siècle, il reste encore 30% des petites annonces qui sont formulées par les parents. Les parents recherchent pour une jeune fille, on recherche pour une jeune fille à marier. Ce qu'on retrouve à peine pour 1% des annonces de l'entre-deux-guerres. Donc là, même si on ne peut pas savoir exactement qui a écrit l'annonce, il est devenu relativement inacceptable dans les représentations qu'on négocie pour une jeune fille à son insu.
Et puis on a parlé du changement peut-être culturel, social, qui consistait à valoriser le mariage d'amour et faire en sorte que la raison soit polluante ou en tout cas soit un peu dévalorisée. Puis il y a aussi le contexte législatif, on va dire. Il est devenu possible de divorcer à partir de 1894, ce qui n'était plus le cas depuis 1816. Est-ce que cette ouverture des possibilités et puis surtout cette réduction du risque, finalement, Clarisse Gaillard, ouvre peut-être le champ aux hommes comme aux femmes?
Ouvre le champ dans quel sens?
Est-ce qu'on accepte plus facilement, en prenant moins de risques puisque la séparation sera possible, est-ce qu'on assume plus facilement de vouloir recruter son conjoint sur des critères économiques et quitte à ce que ça passe pas et que du coup on cherche ailleurs?
Il ne me semble pas qu'il y ait un lien direct avec le divorce. L'effet que ça a davantage, il me semble plutôt que c'est justement l'essor de l'idéal du bonheur conjugal et du mariage d'amour qui a permis aussi qu'on puisse envisager la possibilité de divorcer. Mais en revanche, il me semble qu'au contraire, il y a une grande continuité dans les enjeux matrimoniaux entre le 19e et le 20e siècle. La vraie différence, c'est qu'on va plutôt réunir les deux étapes du choix du conjoint en une seule. À la fin du 19e siècle, il y a d'abord l'étape économique, sociale, famille, puis l'étape consentement, attirance physique et adéquation sentimentale, où là, ça ne concerne que les deux futurs mariés. Alors que au 20e siècle, ces deux étapes sont réunies et sont l'entière responsabilité des deux futurs époux, qui vont pouvoir donc, dès l'annonce, mentionner des critères moraux et physiques. C'est ça qui donne aussi le sentiment qu'il y a une révolution du mariage d'amour, mais en réalité, c'est plutôt que les critères moraux et physiques, à la fin du 19e siècle, étaient cachés, puisqu'ils apparaissaient dans un second temps.
Je tiens à ce que ce soit très sérieux, parce que sinon, vous savez, on en trouve des gens, mais moi, je ne veux pas me marier comme ça, je veux me marier avec un homme très sérieux. Et je ne veux pas d'un commerçant, parce que j'ai peur des faillites et des histoires comme ça. Je l'ai nommé.
Vous avez demandé un ingénieur ou équivalent?
Oui, parce que j'ai épousé deux ingénieurs. L'un était ingénieur architecte et l'autre était ingénieur des ponts et chaussées.
Vous êtes deux fois veuve alors?
Deux fois veuve, oui.
Voilà. On va pas leur dire, vous allez leur faire peur au départ.
Oui.
Vous n'avez pas eu de chance alors avec vous deux mariages?
Ah, j'ai pas eu de chance.
Vous êtes encore
non.
Plus sale.
Non, et vous savez, j'avais des bons maris. J'ai eu de la chance à ce point de vue-là. J'ai eu les meilleurs parmi les bons, madame.
Est-ce que alors, c'est... Vous avez 67 ans.
Oui, donc, je viens de les...
Vous ne paraissez pas du tout, absolument pas.
Eh bien, je ne les paraisse pas parce que je fais beaucoup de gymnastique, je suis très souple. D'une part, et puis d'autre part, je ne me teins pas, je ne me maquille pas trop. Vous voyez, du reste, vous voyez, j'ai des cheveux tout à fait frisés, je ne vais pas au coiffeur que pour les faire couper. Et puis, je n'aime pas trop le maquillage, je mets un petit peu de poudre, un peu de rouge pour être un petit peu...
Vous pensez au type de fille que vous aimeriez rencontrer ?
Oui. J'aimerais que ce soit une fille jeune, d'abord. Hein, parce que...
Quel âge vous avez ?
Moi, je vais atteindre 25 ans bientôt, évidemment, mm-hmm. C'est le bel âge.
Et vous pensez à une fille de quel âge ?
J'aimerais qu'elle soit plus jeune que moi.
Mm-hmm. Mais de combien d'années ?
Pas tellement d'importance.
Et qu'elle fasse quoi ?
Alors justement, là aussi, parce que vous comprenez, employé de bureau, on n'a pas une vie tellement extraordinaire, moi je gagne pas bien ma vie, alors j'aurais aimé quand même qu'elle soit assez riche.
Vous voulez faire un mariage d'argent ?
Non, pas uniquement, non. Mais enfin, j'aimerais bien que, quand même, il y ait aussi l'argent, quoi.
Mais qu'elle ait de l'argent, qu'elle soit une fille fortunée ou qu'elle travaille
Oui, fortunée. Si elle travaille, ça ne me dérange pas tellement, mais fortunée, oui.
Oui, c'est possible. Seulement, vous savez, pour épouser une fille qui a de la fortune, il faut amener quelque chose dans le mariage. J'ai des jeunes filles qui sont fortunées et qu'elles aimeraient bien installer un cabinet à un médecin, mais vous n'êtes pas médecin.
Ah non.
Si vous, par exemple, vous serez capable, vous aurez fait des études, vous serez préparé pour diriger un commerce.
Oui, mais ça, peut-être qu'on peut faire quelque chose à ce moment-là. Parce que vraiment, si je rencontre ce que je veux, là, je pourrais peut-être faire un effort quand même à ce moment-là et essayer de... Parce que je pense quand même que je pourrais arriver à faire quelque chose, vous voyez.
Voilà, deux archives respectivement datées de 1965 puis de 1970. Marion Gousset, on retrouve dans ce dernier témoignage de ce jeune homme de 25 ans quelque chose de très beckerien finalement, si on peut le dire ainsi, dans les critères de sélection de la conjointe idéale. Le couple puis la famille est aussi en lien avec la division du travail. On le sent, c'est de l'argent, on parlait d'entrepreneuriat, mais c'est de l'argent qu'il faut investir, qu'on va faire fructifier grâce à cette cellule qu'est le couple. Ça, c'est une vision qui finalement perdure assez longtemps.
Oui, complètement. C'est toujours cette idée de partenariat économique finalement entre deux personnes. Et donc pour ça, il faut trouver le partenaire avec qui, ça va fonctionner au mieux. Et ce que je voulais rebondir aussi sur cette histoire de critères économiques. Aujourd'hui, toujours, en fait, les jeunes hommes peu éduqués avec des salaires faibles sont en fait ceux qui ont le plus de difficultés à trouver une partenaire. Et donc finalement, aujourd'hui, le critère de économique est aussi, surtout pour les jeunes hommes, est très important aussi dans le choix du conjoint.
On a parlé de la famille comme une cellule productrice, on va dire, en tant qu'agent économique. Très concrètement, que produit la famille ? C'est quoi ? C'est du bien-être du point de vue des économistes ?
C'est ça, c'est du bien-être. C'est de la donc c'est la consommation jointe. Donc ensemble, on va partager un logement, on va partager de la consommation de biens, partager aussi des loisirs ensemble. Puis on va produire, on va élever des enfants qui créent aussi à la participation de bien-être. Ça permet aussi de s'assurer contre des risques. Aujourd'hui, en fait, avoir un partenaire, même s'il y en a un qui tombe malade ou qui se fait licencier, l'autre est là pour assurer derrière. Donc tout ça, ce sont les gains du mariage vu par les économistes qui influencent sur finalement quel est le choix du conjoint aussi optimal pour assurer cette consommation jointe, cette production jointe et ce partage des risques. Et ça, c'est un petit peu changé au cours du temps. Justement, aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus de temps passé par un couple, finalement, sans forcément un enfant à la maison, mais aussi plus de temps passé ensemble avec beaucoup plus de temps de loisirs, eh bien, le partenaire qu'on va vouloir rechercher, c'est aussi quelqu'un avec qui donc, on a des goûts similaires et des façons de consommer, de vivre similaires.
Donc, on le comprend, il y a toute une série d'avantages économiques dans la division du travail, dans les économies d'échelle potentiellement réalisées, et puis le partage du risque aussi que les économistes ont identifié. Au-delà de ça, il y a aussi, on le disait, il y a un cadre réglementaire législatif, il y a aussi un cadre fiscal qui compte. Est-ce qu'on sait mesurer aussi, Marion Gousset, le poids finalement de l'avantage fiscal dans la décision de se mettre en couple, voire de se marier ?
Oui, donc On sait que aujourd'hui, par exemple, ça va dépendre beaucoup des pays, mais par exemple aujourd'hui en France, avec le quotient familial et la taxation jointe des couples, il y a un avantage fiscal pour ceux qui exercent justement une division du travail, c'est-à-dire que un couple où une personne travaille beaucoup et l'autre beaucoup moins, enfin l'écart de revenu est très fort entre les deux conjoints, ce couple-là va bénéficier d'impôts moins lourds que pour deux personnes qui vont travailler, qui vont gagner le même revenu, même si le revenu total est le même, la répartition fait qu'il y a un avantage fiscal pour une division sexuée du travail, enfin pas sexuée mais une division du travail qui au final est toujours et souvent sexuée avec une spécialisation des femmes sur le travail domestique.
Merci beaucoup à toutes les deux, Marion Gousset et Clarisse Gaillard, d'avoir participé à cette émission.